Article d'étude numéro 45. Cet article sera étudié la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Chéris l'honneur que tu as d'adorer Jéhovah dans son temple spirituel. Voici le verset thème de l'article. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Révélation 14, verset 7. Cantique 93. Bénis notre réunion. Aperçu. L'enseignement concernant le grand temple spirituel de Jéhovah est l'un des plus profonds de la Bible. Qu'est-ce que ce temple ? Cet article explore ce que la lettre aux Hébreux nous apprend sur le temple spirituel. Nous espérons que cet examen fera grandir ta reconnaissance pour l'honneur que tu as d'adorer Jéhovah. Paragraphe 1, question. Que dit l'ange qui s'adresse à toute nation et tribu et langue et peuple, et quel effet son message devrait-il avoir sur nous? Si un ange te parlait, l'écouterais-tu? Eh bien, aujourd'hui, un ange s'adresse à toute nation et tribu et langue et peuple. Que dit-il? Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Révélation 14, versets 6 et 7. Jéhovah est le seul vrai Dieu et tout le monde devrait l'adorer. Nous devrions lui être reconnaissants de nous avoir donné la possibilité extraordinaire de l'adorer dans son grand temple spirituel. Paragraphe 2, question. Qu'est-ce que le temple spirituel de Jéhovah? Qu'est-ce que le temple spirituel et où pouvons-nous trouver des explications le concernant? Il ne s'agit pas d'un bâtiment littéral. Ce temple représente les dispositions prises par Jéhovah qui sont possibles grâce au sacrifice de Jésus et qui nous permettent de lui rendre un culte qu'il approuve. L'apôtre Paul a fourni des informations sur ces dispositions dans la lettre qu'il a adressée aux chrétiens hébreux du 1er siècle vivant en Judée. Voici ce que dit l'encadré intitulé « Ce que le temple spirituel n'est pas ». Il n'est pas le temple qu'Ézéchiel a vu en vision. Le temple d'Ézéchiel nous permet avant tout de comprendre que Jéhovah fixe à ses adorateurs des normes morales élevées et que le rétablissement du culte pur a eu lieu à notre époque. Il n'est pas le saint temple pour Jéhovah. Ce temple-là désigne les oints qui servent Dieu dans l'assemblée chrétienne. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Il n'est pas notre paradis spirituel. Cet environnement exceptionnel est d'une grande richesse spirituelle qui permet de reconnaître ceux qui servent Jéhovah dans son temple spirituel. Retour à l'article. Paragraphe 3 et 4, question. Pourquoi Paul a-t-il écrit une lettre aux chrétiens hébreux vivant en Judée et que leur a-t-il expliqué pour les aider? Pourquoi Paul a-t-il tenu à communiquer ces informations aux chrétiens hébreux de Judée? Apparemment pour deux raisons majeures. Premièrement, pour les encourager. La plupart d'entre eux avaient été élevés dans la religion juive et leurs anciens chefs religieux se moquaient peut-être d'eux. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne rendaient pas un culte à Dieu dans un temple impressionnant et parce qu'ils n'avaient pas d'autel où lui offrir des sacrifices ni de prêtrise qui officiait pour eux. Ces moqueries auraient pu décourager les disciples de Christ et affaiblir leur foi. Certains d'entre eux auraient même pu être tentés de retourner au judaïsme. Deuxièmement, Paul a fait remarquer à ces chrétiens hébreux qu'ils ne faisaient pas l'effort de comprendre les enseignements spirituels nouveaux ou profonds, c'est-à-dire la nourriture solide que l'on trouve dans la parole de Dieu. Manifestement, certains d'entre eux étaient toujours très attachés à la loi mosaïque. Paul leur a expliqué cependant que les sacrifices exigés par la loi ne leur permettrait pas d'obtenir un pardon complet. C'était pour cette raison que la loi avait été annulée. Paul leur a ensuite enseigné certaines vérités profondes. Il leur a rappelé qu'ils avaient une espérance meilleure qui était possible grâce au sacrifice de Jésus et qui pouvait leur permettre de s'approcher de Dieu. Hébreux 7, versets 18 et 19. Paragraphe 5, question. Quelle vérité biblique, la lettre aux Hébreux, nous aide-t-elle à bien comprendre et pourquoi est-il important de bien les comprendre? Paul a expliqué à ces chrétiens hébreux pourquoi le culte qu'ils pratiquaient désormais était de loin supérieur à celui qu'ils avaient pratiqué jusque-là. Les différents aspects du culte juif n'étaient qu'une ombre des choses à venir, mais la réalité, c'était le Christ. Colossiens 2, verset 17. La forme de l'ombre qu'un objet projette n'est toujours qu'approximative. De la même manière, le culte rendu à Dieu par les Juifs dans le passé n'était qu'une ombre de la réalité supérieure qui était à venir, à savoir le temple spirituel. Les dispositions que constitue le temple spirituel rendent possible le pardon de nos péchés et nous permettent d'offrir à Jéhovah un culte qu'il approuve. Il nous faut donc bien les comprendre. Dans cet article, nous allons comparer, conformément aux explications que l'on trouve dans la lettre aux Hébreux, l'ombre, la façon dont les Juifs adoraient Dieu, à la réalité, la façon dont les chrétiens adorent Dieu. Cela nous permettra de mieux comprendre ce que représente le temple spirituel et en quoi nous sommes concernés par ces dispositions. Le tabernacle. Paragraphe 6, question. À quoi servait le tabernacle? L'ombre. Dans ses explications, Paul s'est référé au tabernacle qui a été construit par Moïse en 1512 avant notre ère. Le tabernacle ressemblait à une tente. Au début, lors de leur déplacement, les Israélites le transportaient avec eux. Ils s'en sont servis jusqu'à ce qu'un temple soit construit à Jérusalem, c'est-à-dire pendant presque 500 ans. C'est à cette tente de la rencontre que les Israélites se retrouvaient pour s'approcher de Dieu, lui offrir des sacrifices et l'adorer. Exode 29, versets 43 à 46. Mais le tabernacle représentait quelque chose de bien meilleur qui concernerait les chrétiens. Paragraphe 7, question. Quand le temple spirituel est-il venu à l'existence? La réalité. Le tabernacle était une ombre des choses célestes et il représentait le grand temple spirituel de Jéhovah. Notons que Paul a dit « Cette tente, ou tabernacle, est un symbole pour le temps présent. » Hébreux 8, verset 5 et 9, verset 9. Donc, quand il a écrit sa lettre aux Hébreux, le temple spirituel existait déjà. Il était en effet venu à l'existence en 29 de notre ère. Cette année-là, Jésus s'était fait baptiser, avait été oint d'Esprit Saint et s'était mis à servir Jéhovah dans le temple spirituel en qualité de grand prêtre souverain. Hébreux 4, verset 14. La note ajoute « La lettre aux Hébreux est le seul livre des Écritures grecques chrétiennes qui présente Jésus comme le grand prêtre du temple spirituel. » Fin de la note. Le grand prêtre. Paragraphes 8 et 9, question. D'après Hébreux 7, versets 23 à 27, quelle immense différence y a-t-il entre les grands prêtres d'Israël et le grand prêtre souverain Jésus-Christ? L'ombre. Le grand prêtre avait la responsabilité de représenter le peuple devant Dieu. Le tout premier grand prêtre, Aaron, avait été établi dans ses fonctions par Jéhovah lors de l'inauguration du tabernacle. Mais par la suite, comme Paul l'a expliqué, beaucoup ont dû devenir prêtres parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Et comme ils étaient imparfaits, ces grands prêtres devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Quelle différence avec le grand prêtre souverain Jésus-Christ! La note ajoute, d'après un ouvrage de référence, jusqu'à 84 grands prêtres se sont peut-être succédés en Israël jusqu'en 70 de notre ère, année où le temple de Jérusalem a été détruit. Fin de la note. Nous lisons en Hébreux 7, versets 23 à 27. De plus, beaucoup ont dû devenir prêtres les uns après les autres parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais puisque lui reste vivant pour toujours, sa prêtrise ne se transmet à personne. Donc, il peut aussi sauver totalement ceux qui s'avancent vers Dieu par son intermédiaire, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, fidèle, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. À la différence des autres grands prêtres, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. La réalité. Jésus-Christ, notre grand prêtre, est ministre de la tente véritable que Jéhovah et non l'homme a dressée. Hébreux 8, versets 1 et 2. Paul a expliqué que puisqu'il reste vivant pour toujours, sa prêtrise ne se transmet à personne. Puis il a ajouté qu'il est sans souillure, séparé des pécheurs, et qu'à la différence des grands prêtres d'Israël, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour pour ses propres péchés. À présent, intéressons-nous aux autels et aux sacrifices, et voyons quelle différence existe sous ce rapport entre l'ombre et la réalité. Les autels et les sacrifices. Paragraphe 10, question. Qu'est-ce qu'annonçaient les sacrifices offerts sur l'autel en cuivre? L'ombre. Non loin de l'entrée du tabernacle se trouvait un autel en cuivre sur lequel des sacrifices d'animaux étaient offerts à Jéhovah. Toutefois, ces sacrifices ne permettaient pas au peuple d'obtenir le pardon complet de ses péchés. Ces sacrifices d'animaux qui étaient continuellement présentés au tabernacle annonçaient l'unique sacrifice grâce auquel les péchés des humains seraient totalement pardonnés. Paragraphe 11, question. Sur quel autel Jésus s'est-il offert en sacrifice? La réalité. Jésus savait que Jéhovah l'avait envoyé sur la terre pour donner sa vie humaine comme rançon pour les humains. Lors de son baptême, Jésus s'est donc présenté à Jéhovah pour faire ce qu'il attendait de lui. Il s'est offert sur un autel symbolique qui représentait la volonté de Dieu. Et cette volonté, comme nous l'avons dit, était que son Fils sacrifie sa vie humaine parfaite. La vie de Jésus a été offerte une fois pour toutes pour que les péchés de tous ceux qui exercent la foi en lui soient couverts de façon permanente, c'est-à-dire pardonnés. Nous lisons en Hébreux 10, versets 5 à 7 et 10. C'est pourquoi, quand il entre dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, vois, je viens, dans le rouleau il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, ô Dieu. » Verset 10. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Maintenant, examinons la signification des compartiments et de certains éléments du tabernacle. Le Saint et le Très-Saint. Paragraphe 12, question. Qui pouvait entrer dans le Saint et qui pouvait entrer dans le Très-Saint? L'ombre. Le tabernacle et les temples qui ont plus tard été construits à Jérusalem étaient agencés de la même façon. Il n'y avait que deux compartiments, le lieu saint et le Très-Saint, qui étaient séparés par un rideau brodé. Hébreux 9, versets 2 à 5. Dans le Saint se trouvait un porte-lampe en or, un autel pour l'encens et une table avec les pains de présentation. Seuls les prêtres oints étaient autorisés à entrer dans le Saint pour y accomplir leur tâche, qui était sacrée. Dans le Très-Saint se trouvait l'Arche de l'Alliance, qui était recouverte d'or et qui symbolisait la présence de Jéhovah. Seul le grand prêtre était autorisé, une fois par an, le jour de la réconciliation, à franchir le rideau pour entrer dans le Très-Saint. Année après année, il y entrait avec du sang d'animaux pour obtenir le pardon de ses propres péchés et celui des péchés de toute la nation. Plus tard, au moyen de son Esprit Saint, Jéhovah a expliqué ce que symbolisaient ces compartiments du tabernacle. Paragraphe 13, question. Que représentent le Saint et le Très-Saint du tabernacle? La réalité. Un nombre limité de disciples de Christ sont oints d'Esprit Saint et ont avec Jéhovah une relation toute particulière. Ils sont 144 000 et ils serviront en qualité de prêtres au ciel avec Jésus. Le Saint du tabernacle représente la condition de personnes engendrées de l'Esprit et de fils spirituels de Dieu qui est la leur alors qu'ils sont sur la terre. le très saint du tabernacle, représente le ciel où Jéhovah réside. Le rideau qui séparait le saint du très saint représente le corps de chair de Jésus qui l'empêchait, lui le grand prêtre souverain du temple spirituel, d'accéder au ciel. En offrant son corps de chair en sacrifice pour les humains, Jésus a ouvert la voie à la vie céleste à tous les chrétiens oints. Eux aussi doivent abandonner leur corps de chair pour recevoir leur récompense céleste. Après sa résurrection, Jésus est entré dans le très saint du temple spirituel où finalement tous les oints le rejoignent. Paragraphe 14, question. Comment Hébreux 9, versets 12 et 24 à 26 souligne-t-il la supériorité du temple spirituel de Jéhovah? Tout cela fait clairement apparaître la supériorité des dispositions pour le culte pur que Jéhovah a prises et qui sont possibles grâce à la rançon et à la prêtrise de Jésus-Christ. En Israël, le grand prêtre entrait, avec du sang d'animaux qui avait été offert en sacrifice, dans un très saint fait par des mains. Mais Jésus est entré dans le ciel même, dans le lieu le plus saint qui soit, pour paraître devant Jéhovah. Il lui a présenté son droit de vivre sur la terre en tant qu'humain parfait, autrement dit la valeur de sa vie humaine parfaite, pour que nous en bénéficions. Il a ainsi aboli le péché grâce au sacrifice de sa personne. Nous lisons en Hébreux 9, versets 12 et 24 à 26. Il est entré dans le lieu saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, une fois pour toutes, et il a obtenu pour nous une délivrance éternelle. Versets 24 à 26. Car Christ n'est pas entré dans un lieu saint fait par des mains, qui est une réplique de la réalité, mais dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu en notre faveur. Et ce n'était pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme lorsque le grand prêtre entre dans le lieu saint d'année en année avec du sang qui n'est pas le sien. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, il s'est manifesté une fois pour toutes dans la période finale des systèmes de choses pour abolir le péché grâce au sacrifice de sa personne. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice ultime qui efface le péché pour toujours. Comme nous le verrons à présent, que notre espérance soit de vivre au ciel ou sur la terre, nous pouvons tous adorer Jéhovah dans son temple spirituel. Les cours. Paragraphe 15, question. Qui officiait dans la cour du tabernacle? L'ombre. Autour du tabernacle, il y avait une cour, c'est-à-dire un espace découvert et entouré d'une palissade où les prêtres accomplissaient leurs tâches. Dans la cour se trouvait le grand autel des holocaustes, ainsi qu'un bassin d'eau en cuivre que les prêtres utilisaient pour se laver les mains et les pieds avant d'effectuer leur service sacré. Cependant, dans l'enceinte des temples qui ont été construits plus tard, il y avait également une cour extérieure où ceux qui n'étaient pas prêtres pouvaient adorer Dieu. Paragraphe 16, question. Qui sert Jéhovah dans la cour intérieure du temple spirituel? Et qui sert Jéhovah dans la cour extérieure du temple spirituel? La réalité. Avant d'aller au ciel où ils seront prêtres aux côtés de Jésus, les chrétiens oints servent Jéhovah fidèlement sur la terre, dans la cour intérieure du temple spirituel. Le grand bassin d'eau leur rappelle, à eux comme à tous les autres chrétiens, l'importance de rester moralement et spirituellement purs. Mais qu'en est-il des membres de la grande foule qui soutiennent fidèlement les frères oints du Christ? Où servent-ils Jéhovah? Dans la vision que l'apôtre Jean a eue, ils se tiennent debout devant le trône et ils offrent à Dieu un service sacré jour et nuit. Révélation 7, versets 9 et 13 à 15. Ce service sacré, il le lui offre sur la terre, dans la cour extérieure du temple spirituel. Comme nous sommes heureux que Jéhovah nous ait donné la possibilité de l'adorer dans son grand temple spirituel. Nous avons l'honneur d'adorer Jéhovah. Paragraphe 17, question. Quel sacrifice avons-nous la chance de pouvoir offrir à Jéhovah? Aujourd'hui, tous les chrétiens ont la merveilleuse possibilité d'offrir des sacrifices à Jéhovah en donnant de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources financières pour favoriser les intérêts du royaume. Comme Paul l'a dit aux chrétiens hébreux, nous pouvons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui font une déclaration publique pour son nom. Hébreux 13, verset 15. En effet, nous pouvons montrer que nous chérissons l'honneur qui nous est accordé d'adorer Jéhovah en lui offrant ce que nous avons de meilleur. Paragraphe 18, question. D'après Hébreux 10, versets 22 à 25, que ne devons-nous jamais négliger et que ne devons-nous jamais oublier? Nous lisons en Hébreux 10, versets 22 à 25. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et une foi totale, le cœur purifié par aspersion d'une conscience méchante et le corps lavé avec une eau pure. Tenons fermement la déclaration publique de notre espérance sans vaciller, car celui qui a promis est fidèle. Et soucions-nous les uns des autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Vers la fin de sa lettre aux Hébreux, Paul mentionne différents aspects de notre culte que nous ne devrions jamais négliger. Il explique qu'il nous faut nous approcher de Jéhovah dans la prière, faire la déclaration publique de notre espérance, nous réunir avec les membres de notre assemblée et nous encourager mutuellement. Puis il ajoute « Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher ». Vers la fin du livre de la Révélation, l'ange de Jéhovah ordonne « Adore Dieu ». Et il donne cet ordre à deux reprises pour en souligner l'importance. Chérissons donc l'honneur que nous avons d'adorer notre grand Dieu et n'oublions jamais toutes ces vérités profondes concernant son grand temple spirituel. Que répondrais-tu ? Pourquoi Paul a-t-il écrit une lettre aux chrétiens hébreux ? Pourquoi le culte rendu à Dieu dans le temple spirituel est-il de loin supérieur au culte que lui rendaient les Israélites ? Que ne devons-nous jamais négliger et que ne devons-nous jamais oublier? Cantique 88, fais-moi connaître tes voies. Fin de l'article.